Unitaire, au cœur de l'action des défenseurs de l'environnement. Une émission de Michel Forst et Magali Lafourcade. Produite par Amicus Radio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bonjour.
Dans cet épisode, nous allons essayer de mieux comprendre qui sont les défenseurs de l'environnement. Et on va aborder quelques catégories de défenseurs particulièrement menacés, particulièrement ciblés. J'en rencontre beaucoup dans mes missions à l'étranger. Ils nous racontent à quel point ils sont visés non seulement par les forces de sécurité des États, mais aussi beaucoup par les entreprises privées.
La Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme du 9 décembre 1998 rappelle le droit de chacun à promouvoir et défendre les droits humains, mais aussi le devoir des États de les protéger. Cette déclaration définit les défenseurs non pas en fonction d'une qualité professionnelle, comme les avocats ou les journalistes, mais à raison de leurs actions concrètes pour promouvoir et protéger les droits humains. Alors pour mieux comprendre les menaces qui pèsent sur les défenseurs de l'environnement, il importe de distinguer plusieurs catégories. Les rapports des Nations Unies révèlent que les femmes défenseurs, les enfants défenseurs ou encore les défenseurs appartenant aux populations autochtones sont particulièrement ciblés par les États et par les acteurs privés. Pourquoi ? Et surtout, quelle protection leur apporter ? Ces questions sont en fait loin d'être théoriques, puisque parmi les défenseurs des droits humains tués chaque année, 80% sont des défenseurs de l'environnement. Et on estime que tous les deux jours dans le monde, un défenseur de l'environnement est assassiné. Nous allons d'abord, si tu veux bien Michel, revenir sur la définition des défenseurs de l'environnement, puisque c'est une catégorie des défenseurs des droits humains, dont le statut a été défini par la déclaration de 1998. Mais tu as introduit aux Nations Unies en 2016 une définition plus précise des défenseurs de l'environnement. Pourrais-tu nous en parler et nous expliquer ce que cela recouvre ?
Oui, alors heureusement, les États aux Nations Unies ont pris la mesure du problème. Et grâce au soutien de la Norvège, de l'Irlande, de quelques pays un peu audacieux, on a avancé depuis 1998 sur une définition plus sophistiquée, plus opérationnelle, qui permet de mieux protéger les défenseurs de l'environnement. La première étape, ça a été effectivement ce premier rapport aux Nations Unies que j'ai présenté en 2016, après une longue enquête sur les défenseurs de l'environnement dans le monde, qui montrait leurs difficultés, pourquoi ils étaient particulièrement menacés par les entreprises et par les États. Et donc, il y a une première résolution qui a été adoptée par les Nations Unies, qui demande aux États de mieux prendre en compte les spécificités des défenseurs de l'environnement. Le grand changement intervient à partir du moment où, en 2022, on introduit le droit à un environnement sain comme étant un droit humain.
Un droit humain universel, exigible auprès des États, au même titre que tous les autres droits humains consacrés.
Voilà. Alors, dès lors qu'on reconnaît le droit à un environnement sain comme un droit humain, les défenseurs des droits humains deviennent également, étendent la catégorie aux défenseurs de l'environnement qui sont pleinement intégrés dans la définition des Nations Unies. Donc un défenseur de l'environnement est maintenant reconnu pleinement par tout le monde comme étant un défenseur des droits humains et bénéficie donc des mêmes protections internationales.
Et qu'est-ce que ça implique en termes de responsabilité ou de devoir pour les États ?
Alors il y a bien évidemment des devoirs et même des obligations qui sont apportées aux États. Le devoir de protéger le défenseur de l'environnement donc est maintenant non seulement reconnu mais promu, et on voit à quel point même au plus haut niveau des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, à chaque occasion, lors de l'Assemblée Générale mais également quand il intervient devant les États, chaque fois il rappelle l'impérieuse nécessité pour les États de prendre en compte les besoins de protection des défenseurs de l'environnement et des défenseurs en général. Alors une obligation formelle, mais bien évidemment il n'y a pas de sanction quand un pays ne respecte pas cette obligation, et on voit que dans les rapports de Global Witness, les chiffres sont particulièrement dramatiques. Donc, la Colombie, qui est le premier pays dans lequel les défenseurs sont visés, Philippines, en Asie, on l'a déjà dit, donc le Mexique, le Pérou, l'Amérique latine est vraiment le pays le plus dangereux pour les défenseurs de l'environnement en général. Mais on voit que les États, malheureusement, ne prennent pas la mesure du problème et ne prennent pas des mesures assez efficaces, bien que certains d'entre eux font beaucoup d'efforts, il faut le reconnaître également. Donc, la vraie difficulté, c'est que les menaces sont toujours très liées entre les entreprises privées qui utilisent aussi des réseaux mafieux qui utilise aussi la corruption auprès des politiciens de ces États. Donc c'est très difficile, en fait, de démêler l'écheveau des responsabilités entre tous les responsables. Mais cette responsabilité de protéger, elle existe effectivement, et il faut la promouvoir régulièrement.
Et les Nations Unies ont également fait de la lutte contre l'impunité face à ceux qui donc tuent ou menacent les défenseurs, une action, un impératif primordial.
Oui, alors c'est le cas pour les Nations Unies dans son ensemble. Alors, le PNUD, par exemple, consacre des fonds très importants sur la question de l'état de droit, essayer de lutter contre l'impunité. La vraie difficulté, c'est qu'on n'a pas à l'heure actuelle de statistiques fiables sur l'impunité. Quand on parle avec les États, quand on évoque des taux d'impunité qui sont ceux des Nations Unies, les États nous répondent qu'ils n'ont pas la même définition de l'impunité, et donc on a un dialogue un peu de sourd qui porte sur la définition même de l'impunité. Pourtant, elle existe également, cette définition de l'impunité, mais les procureurs dans les États, les procureurs généraux, les ministres de la Justice, souvent refusent de reconnaître cette réalité, que dans certains pays, on a un taux d'impunité de 98-99%, ça veut dire que 1% seulement des cas sont élucidés.
Les crimes sont élucidés. Des crimes d'assassinat, par exemple, de défenseurs. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail des catégories qui ont une vulnérabilité particulière, bien sûr, il y a les femmes défenseurs, elles sont très nombreuses, et tu avais fait un rapport pour établir les menaces spécifiques qui les visent, et elles ne sont pas tout à fait pareilles selon les États du monde. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, d'abord, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point les femmes sont plus engagées dans la lutte pour les droits civils et politiques, mais également pour les droits environnementaux, pour la lutte climatique. Et ça, c'est frappant de voir dans les réunions que j'organise sur le plan international à quel point la participation des femmes est plus forte que celle des hommes. En termes de menaces, toutes elles nous disent qu'elles sont victimes des mêmes menaces que leurs collègues masculins, en fait. Assassinat politique, disparition forcée, enlèvement, arrestation arbitraire, condamnation arbitraire également. Mais elles insistent aussi sur le fait que parce qu'elles sont des femmes, il y a des menaces particulièrement basées sur le genre qui les visent. Et elles racontent à l'aide d'exemples, et elles montrent des photos, des captures d'écran qui montrent qu'effectivement, parce qu'elles sont femmes, on les vise de manière particulière. Alors quelques exemples, donc elles nous racontent à quel point, par exemple, l'utilisation de la pornographie est quelque chose qui les frappe beaucoup. Elles montrent des images dans lesquelles on a des montages, où on a leur visage et ensuite leur corps dénudé, qui n'est pas leur corps, mais qu'on diffuse largement sur les réseaux sociaux.
Dans des positions dégradantes, humiliantes.
Même seulement le fait d'être nu, ça suffit pour être disqualifié dans leur famille, donc rejeté par leur famille. Des menaces également sophistiquées qui pèsent sur leurs enfants. Elle nous raconte que moi j'ai plusieurs sur mon téléphone photos qu'elles m'ont envoyées où on a simplement la photo du petit garçon ou de la petite fille avec simplement son nom et l'adresse de l'école. C'est tout, pas plus que ça. Ça veut dire en fait on sait qui est ton fils, qui est ta fille et à tout moment on peut arrêter, enlever et tuer ton enfant, ta fille. Alors elle dit à quel point c'est quelque chose de menaçant pour elle. C'est menaçant également pour leurs collègues masculins, mais il y a très peu d'images qui sont envoyées aux hommes. On vise simplement les femmes par ce type d'images. Et puis, idéalement, toutes les menaces de viol, les menaces d'arrestation, elles sont dénudées. Récemment encore, hier, j'étais au Portugal, où on m'a raconté que lors d'une manifestation de militants du climat, 26 militants ont été arrêtés. Et seules les femmes ont été dénudées. C'est-à-dire que la police a demandé aux femmes de se dénuder entièrement, mais les hommes non. Voilà. Donc on a visé particulièrement les femmes défenseurs.
Et ça, c'était au Portugal.
C'était au Portugal, donc à quelques milliers de kilomètres de Paris. Voilà. Et puis on a plein de récits également qui montrent à quel point les femmes sont particulièrement menacées. Et il y a à l'heure actuelle également des bonnes mesures, des mesures concrètes qui permettent de mieux répondre. Et les femmes sont très capables de s'organiser. Elles ont monté des réseaux de femmes défenseurs, des réseaux locaux, des réseaux régionaux, des réseaux internationaux. Et elles nous disent toutes que la meilleure protection, c'est la solidarité entre les femmes. Donc, dès que l'une d'entre elles est menacée, attaquée, elles disent que la solidarité entre femmes, ça joue beaucoup et ça permet de nous réunir rapidement, et même d'affronter la police ou d'affronter les forces de sécurité. Et ça nous protège vraiment beaucoup. La solidarité, c'est quelque chose qui est frappant de voir à quel point ça a été développé en Afrique, en Amérique latine, en Asie maintenant. Et les modèles développées par les latinos ont été exportées, les bonnes pratiques, dans le reste du monde. Et c'est heureux.
Et bien c'est un éloge à la sororité, mais au-delà, j'imagine qu'il faut aussi avoir des protections un peu plus solides. Et nous allons en parler tout à l'heure, mais je voudrais que tu nous fasses un point sur les enfants défenseurs, puisque c'est une catégorie qui est souvent invisibilisée, malgré l'implication de personnalités comme Greta Thunberg. Il y a beaucoup d'enfants qui sont très éco-anxieux et qui se mobilisent pour le climat, et face à leur mobilisation, ils ont une réponse qui est souvent très dénigrante. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe ?
Oui, peut-être d'abord commencer en disant qu'il y a eu une très forte résistance de la part des États à reconnaître les enfants défenseurs comme étant des défenseurs des droits humains qui répondent aux catégories des Nations Unies. On disait simplement que parce qu'ils sont mineurs, c'est leurs parents qui sont responsables et par conséquent, ils ne sont pas reconnus par les Nations Unies comme étant des défenseurs. Maintenant, il y a eu un avancé formidable grâce au Comité des droits de l'enfant qui a, dans une observation générale, reconnu que les enfants défenseurs étaient des défenseurs et par conséquent étaient éligibles à une protection particulière. Et ce qui est frappant, c'est de voir qu'au-delà de Greta Thunberg, qui est maintenant plutôt une jeune défenseure et pas une enfant défenseur, on a des enfants défenseurs de 12, 13, 14 ans que je rencontre partout, y compris en Europe, et qui militent pour le climat, pour la justice climatique, qui s'engagent et qui sont effectivement victimes des mêmes menaces que les adultes ou que les adolescents. Ce qui est particulier, c'est qu'ils sont souvent en première ligne. Moi, je les trouve extrêmement sympathiques quand je les rencontre. C'est des jeunes qui sont empathiques, qui savent parler avec éloquence de la raison de leur engagement. On les présente comme des écervelés, comme des jeunes inconscients, alors que ce sont des jeunes, des enfants très conscients de l'action qu'ils mènent. Et c'est malheureux de voir à quel point ils sont disqualifiés par les politiques, mais également, on pourra en parler peut-être, par les médias. Moi, je suis vraiment effrayé de la manière dont les médias présentent ces enfants défenseurs qui s'engagent dans la justice climatique.
Alors tout ça a un nom, c'est l'infantisme en français ou le childism en anglais. Donc ce dénigrement de toute cette conscience politique et ces revendications portées par les enfants au motif qu'ils sont enfants, qu'il ferait mieux de s'occuper de la couleur de leur trousse plutôt que de parler des politiques climatiques ou de l'inaction climatique. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée à ce niveau-là aux Nations Unies ? Toi-même, tu avais fait une réunion avec des enfants défenseurs du monde entier, non ?
Oui, tout à fait. Donc, il y a une grande mobilisation aux Nations Unies, avec le soutien du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, mais également de grandes organisations non gouvernementales qui étaient sensibilisées sur le sujet, qui a mené donc à cette décision de reconnaître les enfants comme des défenseurs comme les autres, si je puis dire. Et par exemple, dans tous les rapports que je présente aux Nations Unies, dans chaque rapport pays ou thématique, il y a toujours un chapitre qui est dédié aux observations que j'ai pu faire dans le pays sur la question des enfants défenseurs, avec des recommandations particulières aux États sur l'attention à apporter aux enfants défenseurs. Et ma successeure, donc Mary Lawlor, a repris cette bonne pratique. Et donc, depuis maintenant 2015, on a, année après année, des rapports pays, des rapports thématiques dans lesquels les enfants défenseurs sont nommés
de manière spécifique. Alors parlons des défenseurs qui font partie des peuples autochtones. Donc là aussi, ils font face à des menaces particulières.
Oui, alors pour moi, c'est un vrai sujet de préoccupation, un vrai sujet aussi d'admiration. J'ai appris à les connaître dans mes missions à l'étranger, au Pérou, en Colombie, au Mexique, mais également en Mongolie, au Kenya ou ailleurs, les populations autochtones qui, en fait, ont une relation au monde qui n'est pas la nôtre et qu'ils essaient de partager avec nous. Donc, c'est cette fameuse cosmovision dont on a parlé, peut-être déjà, dans laquelle la terre n'est pas que la terre, l'air n'est pas que l'air, la forêt n'est pas que la forêt, c'est autre chose, c'est la Pachamama, c'est la mère nature qui nous nourrit. Et simplement parce qu'ils ont cette conception différente, qu'on a du mal à comprendre, que les entreprises surtout ont du mal à accepter, eh bien ils sont victimes de terribles opérations d'expulsion, d'éviction forcée, d'arrestation. On pille leurs terres, on pille leurs ressources naturelles, on ne les consulte pas, donc on les considère comme des demeurés à qui on ne peut pas parler, à qui on ne peut pas expliquer les raisons pour lesquelles les entreprises ont besoin de développer et de déforester. C'est une catégorie qui en fait mérite une attention particulière. Il y a de grandes organisations non gouvernementales qui travaillent sur la question des populations autochtones. Et parmi ceux-là, encore une fois, je rencontre des enfants des jeunes qui, en fait, vont chasser, vont pêcher, et qui me racontent à quel point ils ne comprennent pas pourquoi, en fait, on leur interdit d'utiliser les ressources qui leur appartiennent. C'est leur terre, ils en prennent soin, et ils sont menacés par les forces de sécurité, ils sont arrêtés. Beaucoup d'entre eux disparaissent, on ne les voit plus. On sait qu'ils ont été arrêtés, qu'ils ont été parfois décapités, enterrés vivants. C'est extrêmement impressionnant de voir le sort qu'on leur réserve à ces enfants défenseurs des populations autochtones.
On constate souvent que les médias eux-mêmes ont du mal à comprendre ce que sont les défenseurs et en font un traitement médiatique qui est très loin de la réalité de leur combat, leur sincérité et leur utilité surtout.
Effectivement, et moi ça me rend furieux de voir lorsque je observe une manifestation en Allemagne, en France, au Portugal ou ailleurs, de voir à quel point les médias semblent ne pas comprendre la réalité du combat pour la justice climatique que mènent les militants du climat. Et ce qu'on rapporte, c'est uniquement le fait que c'est une action disruptive qui bloque une route pendant quelques minutes ou une demi-heure maximum, une action symbolique qui en fait effectivement est disruptive, mais qui vise à attirer l'attention sur une cause beaucoup plus importante. Et le traitement médiatique, il est tel qu'on ne porte, il ne porte que sur l'action disruptive en elle-même. Il n'y a jamais d'explication. Or, le rôle du journaliste, c'est pas uniquement simplement de couvrir un événement et de raconter les faits, mais c'est de faire aussi un récit des raisons pour lesquelles cette action a lieu. Et donc, je suis frappé de voir à quel point, à l'instar de Fox News aux États-Unis ou CNews en France, on va couvrir uniquement la manifestation en elle-même. On va raconter que ce sont des gamins écervelés, des adultes irresponsables, des scientifiques qui ne tiennent pas
devenus
leur
militants.
Rang, qui deviennent militants, qui sont des militants engagés, des militants politiques, alors que le rôle du journaliste devrait être de couvrir ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'inaction des États face au changement climatique qui nous menace tous, le fait que les États n'écoutent pas les scientifiques qui ont des choses importantes à nous dire, des conseils importants à nous dire, et que malheureusement, l'État ne prend pas ses responsabilités. Et je regrette que certains médias, la plupart des médias, ne jouent pas ce rôle-là. Il y a une étude extrêmement intéressante qui vient de sortir aux États-Unis, qui montre que sur un an, si on regarde toutes les actions qui ont été menées aux États-Unis sur la justice climatique, aucune d'entre elles, aucun média, à l'exception du New York Times, n'a réellement couvert les raisons pour lesquelles les militants s'étaient engagés dans des actions de disruption de la vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose qui est, de mon point de vue, monstrueux, un manque de responsabilité de la part des médias.
Et en quoi ça nourrit les violences ou les menaces dont font les frais les défenseurs ?
Alors c'est là justement, pour moi, la conséquence importante, c'est que ça disqualifie, au fond, la cause. On ne pointe le doigt que sur les militants eux-mêmes, sur le fait qu'il y a de l'interruption de la vie quotidienne, et donc ça disqualifie la cause du climat, alors qu'au contraire, les médias devraient s'intéresser beaucoup plus aux raisons pour lesquelles les militants sont engagés. Ça fait penser à ce proverbe chinois, j'y pense tout à coup, qui dit « lorsque le sage montre la lune,
l'imbécile
regarde
le doigt ».
Et en fait, le journaliste ne regarde que le doigt et ne regarde pas la lune, alors que son rôle devrait être de montrer de manière plus large l'importance du sujet sur lequel sont engagés les militants.
Alors face à ces dangers et au sort qui est réservé à certaines catégories de défenseurs qui sont particulièrement menacés, il existe un certain nombre de protections qui sont mises en place. Donc il y a une réflexion qui est menée au niveau international, mais il y a aussi des bonnes pratiques au niveau des États ou des régions. Les réseaux de sociétés civiles s'organisent. Est-ce que tu peux nous faire un point sur l'état d'avancement de ces différents niveaux de protection ?
Oui, alors donc il faut reconnaître que la communauté internationale et quelques pays particulièrement en pointe ont pris des mesures qui sont efficaces pour protéger les défenseurs. D'abord aux Nations Unies, on a créé donc cette fonction de rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs qui a un pouvoir de couverture universelle dans tous les pays et qui peut décréter des mesures de protection pour les défenseurs et les défenseurs de l'environnement. Sur le plan régional également, la Commission africaine, puis la Commission interaméricaine ont aussi créé des fonctions de rapporteurs spéciaux qui ont la possibilité également de prendre des mesures de protection immédiate. À noter que la Cour interaméricaine également a des mesures spécifiques de protection immédiate. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'attendre longtemps. Elle décide de mesures spécifiques et l'État a l'obligation de prendre des mesures pour protéger une communauté.
C'est les mesures provisoires, qui rentrent en vigueur immédiatement, le temps qu'elle examine au fond.
Immédiatement. Sur le plan national, on voit des pays comme par exemple la Colombie, le Mexique, l'Honduras, le Pérou, maintenant la Mongolie, on a également la Côte d'Ivoire, qui ont mis en place une loi nationale qui qui définit qui sont les défenseurs dans le contexte national et qui met en place un mécanisme puissant de protection de défenseurs. Par exemple, en Colombie, au Mexique, Honduras, ce mécanisme qui dépense des millions de dollars, réellement des millions de dollars, permet de mettre à disposition des défenseurs des gardes du corps, parfois plusieurs gardes du corps pour les protéger, des officiers de police, des femmes policières également pour protéger les femmes défenseurs, des voitures blindées, des boutons de panique qui permettent d'appeler immédiatement la police quand on est menacé, qui mettent des barreaux aux fenêtres pour protéger les habitations. Donc c'est efficace, mais malheureusement la pratique montre que lorsqu'une entreprise, une mafia a décidé de tuer un défenseur, aucune mesure ne parvient à le protéger. Les sicarios, comme on dit en Amérique latine, donc pour 10 dollars, sont capables d'exécuter n'importe qui avec un fusil à lunettes, et donc rien ne peut empêcher ces meurtres, malheureusement. Ces mécanismes sont efficaces, ils protègent beaucoup, mais quand on a décidé de tuer un défenseur, on ne peut pas empêcher, malheureusement, le meurtre du défenseur.
Alors, il y a aussi les défenseurs qui sont menacés, qui vivent des moments difficiles et qui ont besoin d'avoir une période de repos ou d'avoir des villes-refuges. Ce maillage des villes-refuges, et c'est un programme de réadaptation pour les défenseurs qui ont besoin de se ressourcer avant de repartir au combat. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Oui, c'est un mécanisme qui a été lancé par une organisation aux Pays-Bas, Justice and Peace, qui prévoit de mettre en place un maillage, un réseau dans lequel les États, la ville, la municipalité et une ONG prennent un engagement sur plusieurs années. L'idée, c'est que l'État garantit un visa pour les défenseurs, pour qu'ils puissent voyager librement et venir dans le pays. La municipalité donne un appartement, une maison, gratuitement, et une ONG reçoit un financement pour s'occuper du défenseur et de sa famille pendant 6 mois, 1 an, 18 mois parfois, et même plus. Et on a maintenant un réseau de plus de 40 villes-refuges dans le monde. En France, on en a eu 2 pour le moment qui se sont déclarés. La ville de Lyon a été la première. On a ensuite Bordeaux qui va être la seconde. Ça marche très bien. On voit à quel point ce besoin de respirer, de se restaurer, de se réparer est important pour les défenseurs pour qu'ils puissent retourner.
Et la plupart du temps, ils retournent...
Oui, c'est ça qui est extrêmement impressionnant, c'est que beaucoup d'États pensent que ce sont des demandeurs d'asile cachés et qui vont profiter du temps passé dans le pays pour demander l'asile. Or non, une étude faite par Justice and Peace, depuis maintenant que le réseau existe, montre que 82% ont décidé de retourner dans leur pays d'origine pour continuer leur travail. Ça veut dire que seulement 18% ont demandé l'asile. C'est très peu au regard des menaces auxquelles ils sont confrontés.
Merci beaucoup, Michel. Ce que je retiens de cet échange avec Michel Force, c'est que les défenseurs de l'environnement font face à des dangers parfois terribles, et certains sont davantage ciblés à cause de leur genre, à cause de leur âge ou à cause du fait qu'ils appartiennent aux populations autochtones qui occupent des territoires largement convoités par des acteurs publics ou des acteurs privés. Mais je vois aussi que la réflexion court pour avoir un meilleur niveau de protection, pour faire que pour les menaces de moyenne intensité ou de basse intensité, on puisse aider les défenseurs, les mettre dans des réseaux de bonnes pratiques, créer de la solidarité et pouvoir avoir des moyens de sortir du contexte de conflit pour pouvoir se restaurer avant de repartir au combat. Je constate également que malgré cette réflexion sur les protections à avoir, le propos de Michel Force est très clair sur le fait que les assassinats ciblés sont une réalité qui est encore très très difficile à endiguer. Toutefois, ces protections et ces exemples de bonnes pratiques sont en train d'essaimer, et donc on peut espérer que d'autres États appliquent ces model laws, donc ces lois de protection des défenseurs, pour espérer que les États et la communauté internationale respectent davantage la déclaration de 1998 sur le statut des défenseurs des droits humains et de l'environnement.
Nous allons maintenant écouter deux femmes défenseurs du bassin du Congo et du Salvador, qui sont des femmes engagées dans la lutte pour l'environnement et qui sont en même temps des écoféministes.
« En tant qu'écoféministe travaillant sur cette problématique très pointue qu'est la criminalité environnementale organisée parce que transnationale, parce qu'elle concerne tous les pays des bassins du Congo, je fais face à deux types de violences. Déjà la violence physique qui est très présente, il y a ces gros engins qui tentent souvent de nous écraser dans des routes insinueuses dans ces forêts. Et pour un exemple simple, bien que ce ne soit pas une femme, mon collègue au niveau du Congo a été victime d'une tentative d'assassinat dans ces forêts-là. Et moi, d'une tentative, je peux appeler ça de meurtre au niveau des forêts du bassin du Congo, dont j'étais le pays pour mesures de sécurité. En termes de violence verbale, justement, il y a cette chaîne de criminels autour de cette exploitation illicite qui menace beaucoup, qui s'arrête souvent et qui me profère justement des menaces très cruelles, que je considère comme très cruelles, dégradantes, sexistes, pour me pousser justement à abandonner ces enquêtes autour justement de cette chaîne de criminalité environnementale dans les bassins du Congo.
I'm an ecofeminist and environmental activist from El Salvador, Central America. Currently, I'm fighting for clean water rights in El Salvador, which has been a big fight for environmental rights because of different threats and persecutions against environmental activists. We have suffered the loss of many people fighting against metallic mining and also for the different rivers in Central America. Now, different journalists and environmental activists are suffering persecution not only by private companies but also for the government. By the government, the new government of El Salvador is now named as one of the autocracies around the world, which is really bad news for fundamental rights and the freedom and democracy in Latin America. So that's why environmental activists now has this fear of being threatened and suffer persecution by the militaries and policemen in El Salvador. Five of them are now in jail fighting against metallic mining companies, and now since 2023 they are in jail because of their important work in the region.
Merci beaucoup de votre écoute. Dans le prochain épisode, nous aborderons le rôle des journalistes et nous aurons le plaisir d'entendre Stéphane Foucard, le journaliste du Monde. Merci, à bientôt.
Au revoir.